Mondial Sport sur RFI. Éric Mamrut.
Bonsoir, bonsoir à tous. Beaucoup de sport et de champions à l'honneur ce soir dans Mondial Sport. Le tennis avec la finale dame de l'US Open en cours. Bianca Andreescu mène devant Serena Williams. Le basket avec Nicolas Batum et les Bleus qualifiés pour les quarts de finale du Mondial chinois. La Formule 1 et Charles Leclerc qui partira demain en pole position du Grand Prix de Monza. Le football bien sûr avec l'équipe de France qui vient de battre l'Albanie. Neymar du retour sur les terrains. Beau programme mis en monde ce soir par Fabrice Biollet, mais on débute par l'événement de la nuit dernière, c'est l'annonce de la retraite de Samuel Eto'o.
Жирков прострел Eto'o. Неужели это Samuel Eto'o? Да. Первый гол Samuel Eto'o.
C'est un but de Samuel Eto'o.
Riesce a Biava, scivola e trova verso la porta e da salta Muslera a porta vuota e gol!
Iniesta se la queda e
je ne sais pas si je jouerai jusqu'à 38 ans en club. Plus vous avancez, on dirait, vers la sortie, plus vous avez envie de rester. Si mes jambes répondent, oui, pourquoi je ne le ferais pas?
The Tongans in trouble, and here is Eto'o! 1-0, and it was a gift!
La suite, c'est de prendre du bon temps avec ma famille. J'ai besoin de me reposer. J'ai couru pendant 24 ans. Je pense qu'il est temps que je profite avec mon épouse, mes enfants. Et dans quelques semaines, dans quelques mois, vous me verrez bien en train de faire d'autres choses.
Du Cameroun au Qatar en passant par l'Italie, la Russie, l'Angleterre et la Turquie, il a fait le tour du monde, ses buts également, mais à 38 ans, comme il le disait de manière presque prophétique en 2011, c'était dans Radio Foot International, le Lion, Samuel Eto'o a décidé de dire stop. Thomas de Saint-Léger, bonsoir.
Bonsoir Eric.
Une retraite, une sortie plus discrète que l'ensemble de sa carrière.
Un message sobre, oui, posté la nuit dernière sur son compte Instagram, dit N vers un nouveau défi. Merci à tous, écrit-il, texte accompagné d'une photo assez énigmatique, très sombre, où l'on distingue un sourire furtif, peut-être le sourire de l'artiste contemplant son œuvre, et elle est considérable, cette œuvre footballistique, plus de 20 ans de carrière, une grosse douzaine de clubs, des buts à l'appel et surtout des titres. En club, la Ligue des Champions 3 fois, la Liga 3 fois, un Scudetto aussi en Italie. Et puis avec les Lions Indomptables, champion olympique en l'an 2000, vainqueur de la CAN la même année. Puis en 2002, finaliste en 2008, Samuel Eto'o est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection camerounaise. 56 buts, il a été élu 4 fois Ballon d'Or africain.
Et il a aussi joué avec les meilleurs de son époque.
Messi, Ronaldinho, Iniesta, pour ne citer que le Camerounais, a su gagner le respect de ses coéquipiers, mais aussi celui de ses adversaires. Écoutez par exemple celui qui l'avait affronté en finale de la CAN et qui nous fait le plaisir de répondre ce soir à quelques questions, le Sénégalais Kalilou Fadiga.
Le fait qu'il ne soit pas un compatriote ne fait pas de lui un ennemi, au contraire, ça fait de lui un frère. Samuel représente le football africain en général. Ça va être quelque chose de bizarre de ne plus voir Samuel. Il y a des gens comme ça dont on a l'impression qu'ils seront éternellement sur les terrains, et Samuel fait partie de ces gens-là.
Quel mot, selon vous, définit le mieux le joueur qu'il était, puisqu'on doit maintenant parler de sa carrière au passé?
Serial buteur, artiste, passionné par le jeu, passionné des données tactiques, mais passionné de la technique du football aussi. Et donc voilà, quoi, je pense que c'est ça qui l'a amené justement à être dans les sommets.
Alors, sans qu'il évolue exactement dans la même zone de jeu que vous lorsque vous étiez adversaire, vous vous êtes affronté. Quel type de joueur il était quand on était son adversaire?
C'était quelqu'un dont il fallait se méfier, parce que Samuel, c'était la malice, c'était la vista, la technique, la vitesse d'exécution, le geste juste à chaque fois, un danger permanent, Samuel. Donc voilà, je pense que c'est ce qui a fait quand même que c'est devenu un des plus grands attaquants au monde et un des plus grands attaquants africains.
Où on peut le situer justement, Samuel Eto'o, dans le panthéon du football africain et même du football mondial?
Je pense qu'il fait partie quand même du top 5, hein, et ça c'est clair. Il y a d'autres joueurs qui ont aussi marqué l'histoire du football africain, mais la manière dont lui il a posé son empreinte dessus, je pense pas qu'il y en ait deux ou trois qui puissent rivaliser avec lui.
Alors sa carrière aura été très longue, riche en buts, en trophées. Pourtant, il n'a jamais été ballon d'or, ni même sur le podium. Ballon d'or européen, je précise. Vous trouvez ça injuste et vous pensez que c'est aussi un regret pour lui?
Ouais, je trouve ça injuste parce que je pense que il le méritait, je pense, c'était en 2006. Je pense qu'en 2006, il le méritait. On a été un petit peu, nous les Africains, on a été un petit peu fâché, un petit peu frustré que Samuel n'ait pas eu ce ballon d'or là.
Vous avez une anecdote en particulier avec lui, sur ou en dehors du terrain, qui le représenterait particulièrement?
Des anecdotes, pas tellement, mais bon, après, ce que moi je retiens de Samuel, perso, c'est son combat. Il défendait beaucoup les autres. Samuel défendait énormément les autres. Et ça, c'est dans le monde du football, c'est quand même rare, pour ne pas être souligné. Après, c'est vrai que des anecdotes, il m'en vient plein la tête. La finale de la Coupe d'Afrique, on perd au pénalty contre le Cameroun. Ça, c'est des anecdotes qui sont pas trop chouettes. Après, il y a des matchs où on se retrouvait sur les matchs de gala, sur le match du dernier match en fait de Nwankwo Kanu, où on s'était vu au Nigeria et il m'avait bien fait rire. Et puis là, on était ensemble encore à la Coupe d'Afrique en Égypte. On était très souvent ensemble, lui et moi. On est vraiment très proches l'un de l'autre et c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément d'affection, parce que lui aussi a énormément d'affection pour moi et énormément de respect pour ce que j'ai fait aussi dans le football. Et donc voilà quoi. Et Samuel restera un des grands, grands artisans du football. Moi, je ne veux pas juste le réduire au football africain, quoi. Franchement, pour moi, ça restera un des grands footballeurs au niveau mondial. Ouais.
Et la question qui se pose maintenant, c'est la suite. Il l'a dit, il va dans un premier temps se reposer, profiter de sa famille. Mais selon vous, qui le connaissez bien, où sera Samuel Eto'o dans 3 ans, on va dire? Toujours dans le monde du football, sur un banc d'entraîneur, en politique peut-être?
La particularité de Samuel, c'est que quand il a quelque chose en tête, il fera tout pour y accéder. Mais il y a une particularité, ce n'est pas quelqu'un qui va forcément crier sur tous les toits ce qu'il a l'intention de faire. Mais une chose est sûre, c'est que ce qu'il fera, ça sera sûrement pour l'avancement du football africain.
Sur un banc d'entraîneur, vous le voyez par exemple, vous?
Ah ben, tant que dirigeant, en tant que coach. Mais je pense que il a plutôt l'étoffe d'un dirigeant plus que d'un coach.
Khalilou Fadiga, Samuel Eto'o, qui est d'ailleurs devenu cet été collaborateur officiel d'Amad, le président de la CAF, avec Didier Drogba. Voilà peut-être un indice sur la future reconversion de Samuel Eto'o. La bonne rentrée des Bleus, l'équipe de France de football a écrasé ce soir l'Albanie au Stade de France, 5e journée des éliminatoires de l'Euro 2020. Un succès 4-1 suivi pour RFI par Olivier Pron, que l'on retrouve sur place. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Les Bleus n'ont jamais tremblé ce soir.
Ah non, ça, il n'y avait pas de quoi, parce que il faut dire qu'en face c'était le néant ou presque, hein, un tir, deux tirs cadrés peut-être dans toute la rencontre. C'est trop peu pour inquiéter les hommes de Didier Deschamps, qui n'aiment pas franchement les matchs de rentrée, mais qui ont su se rendre les choses assez faciles dès la 8e minute, superbement lancé en profondeur par Varane Kingsley. Coman vient tromper le portier Strakosha, le portier albanais. C'est son deuxième but en 18 sélections pour Kingsley Coman. Et puis 2-0 à la 27e. Cette fois c'est Lucas Hernandez qui récupère, qui centre pour Olivier Giroud. Alors Olivier Giroud, il marque de près au point de pénalty. Lui, c'est son 36e but quand même en 92 sélections. Quel attaquant. 2-0 à la pause parce qu'Antoine Griezmann a raté un pénalty à la 37e minute en le frappant sur la transversale. Et puis en deuxième période, à leur main, les Bleus, hein, face à de bien inoffensifs albanais, encore une fois, ont inscrit un 3e but, 68e minute, servi par Griezmann. À défaut de marquer, les et passeur décisif. Coman signe un doublé, il contrôle et frappe de près, un doublé pour un retour en bleu, c'est bien. Et puis entrée en jeu de Jonathan Ikoné à la 77e, 8 minutes plus tard, première sélection et premier but pour l'attaquant du LOSC d'origine congolaise. 4-0 pour la 85e et 4-1 à la 90e parce qu'il y a eu un pénalty en faveur des Albanais et c'est Sikaleshi qui a marqué, qui a sauvé l'honneur albanais. Les Bleus ont fait le métier.
Les Bleus qui se rassurent donc après leur défaite en Turquie avant l'été. L'équipe de France qui gagne facilement malgré les absences de Mbappé, Pogba et N'Golo Kanté. Du coup, il y en a certains qui en ont profité pour se faire remarquer.
Ah oui, alors on l'a cité, Kingsley Coman, évidemment. Lui, il a une vie en bleu assez mouvementée, il a été tellement blessé, mais il a démarré cette saison pleine balle avec le Bayern Munich et il a confirmé un doublé donc pour Kingsley Coman. On a bien aimé le travail de Tolisso aux côtés de Matuidi, celui de Thomas Lemar, le joueur de l'Atlético Madrid. Il a été très en vue. Et puis, Jonathan, il connaît, on sait qu'il est là parce qu'il y a beaucoup d'absents devant. Lacazette, Mbappé, vous l'avez dit. Jonathan, il connaît, bah voilà, il arrive en conférence de presse il y a quelques jours. On lui avait demandé s'il rêvait ce genre de scénario, entrer, marquer. Oh, il a dit, je me fais tellement de films dans ma tête, tellement de films, que oui, tout serait beau. Et ben voilà, il est rentré, il a marqué. Platini et Benzema avaient fait la même chose, buteurs pour leur première sélection avec les Bleus. Rendez-vous mardi maintenant face à Andorre. Il y aura 3 points à prendre, ils seront pris, parce que les rendez-vous d'octobre dans un match à 3 en vue de l'Euro 2020 vont être très importants en Islande et face à la Turquie.
Oui, France, Turquie et Islande pour l'instant, premier ex aequo du groupe H, puisque les Turcs ont battu tout à l'heure sur le fil Andorre 1-0 pendant que les Islandais écrasaient les Moldaves 3-0. Merci beaucoup Olivier Pron. Dans les autres groupes, dans le A, l'Angleterre conserve la tête après avoir écrasé la Bulgarie 4-0. Le Kosovo, tombeur de la République tchèque, poursuit son parcours surprise, victoire 1-0. Il suit à une longueur des Anglais. Enfin, dans le groupe B, l'Ukraine reste invaincue en allant imposé en Lituanie 3-0, le Portugal vainqueur en Serbie 4-2 avec un but de Cristiano Ronaldo, pointe à 8 longueurs, mais le Portugal compte 2 matchs en moins. Ronaldo qui marque et Neymar qui revient. 3 mois que l'on ne l'avait plus vu disputer un match, c'était le 6 juin dernier face au Qatar, avec à l'arrivée une blessure à la cheville droite qui l'a empêché notamment de disputer la Copa América remportée à domicile par la Seleção. 3 mois après donc, la star brésilienne du Paris Saint-Germain a donc rejoué. C'était cette nuit à Miami en amical contre la Colombie, score final 2-2 avec un Neymar plutôt séduisant. Eric Frozio, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le correspondant au Brésil du journal L'Équipe. Alors, est-ce qu'on peut parler d'un retour réussi pour Neymar ?
Ouais, un retour réussi, un retour surprenant aussi, parce que plus de 3 mois sans compétition, plus de 3 mois sans jouer. Évidemment, on s'attendait pas au meilleur Neymar. Et pourtant, après une première période un peu difficile, un peu timide, bah, il s'est lâché. Il a délivré une belle passe décisive pour un but sur corner de Casemiro. Et ensuite, il a marqué un joli but sur une passe de son pote Daniel Alves. On l'a vu accélérer, dribbler, ne pas avoir peur des duels et des contacts. Une vraie réussite.
Et il a joué toute la rencontre, 90 minutes.
Il a joué 90 minutes. Alors, Tite, en interview, il a expliqué que pendant la deuxième mi-temps, à plusieurs reprises, il s'était demandé auprès de son staff, on l'enlève, on le sort. Et puis finalement, il a été un peu pris par les progrès et la condition physique de Neymar. Il l'a laissé jusqu'à la fin.
Un Neymar donc en forme physiquement et en plus efficace. Quels sont donc les commentaires de la presse et des observateurs aujourd'hui après ce match réussi ?
La presse a souligné que c'était un Neymar un petit peu étonnant, on va dire, hein, qu'après une si longue absence, on l'imaginait pas aussi performant, aussi virevoltant. Donc voilà, la presse souligne qu'on a retrouvé en quelque sorte un Neymar performant, et puis on a surtout retrouvé un Neymar footballeur, quoi, parce que ça fait des mois et des mois qu'on parle de lui dans les pages judiciaires, dans les pages du mercato et des transferts. Donc là, ça faisait du bien, je pense, aux reporters brésiliens de parler du Neymar footballeur. Ouais.
Et du côté des supporters, Neymar avait perdu beaucoup de crédit ces derniers mois, ces dernières semaines, avec tout ce qui s'est passé.
Oui, effectivement, ouais, les supporters sont vraiment fatigués, lassés de toutes ces polémiques, de toutes ces dérives en fait, hein, qui accompagnent la carrière de Neymar depuis presque 2 ans, depuis son départ au Paris Saint-Germain. Je l'ai dit, les accusations de viol, les sorties, les blessures aussi,
les roulades de transfert.
Exactement, les simulations lors de la Coupe du Monde. Donc tout ça, ça faisait vraiment beaucoup. Et c'est un peu étonnant, puisqu'il faut se rappeler que Neymar, au début de sa carrière, même jusqu'à son époque barcelonaise, il était adoré par tout le pays, par tous les Brésiliens. Et au fur et à mesure de ses dérapages, il y a vraiment eu une division, hein, au sein du pays entre les pro-Neymar, il en reste quand même, et ceux qui passent leur temps à le critiquer en disant qu'il est, immature et il est en train de gâcher sa carrière et celle de la Seleção.
Et lui, quel a été son comportement là ces derniers jours ? Il a parlé à la presse, il a joué profil bas, comment il s'est comporté ? Est-ce qu'il a parlé après le match ?
Non, toujours dans la discrétion, entre guillemets. En tout cas, il s'est pas exprimé. Il a publié seulement une petite photo lors de la célébration de son but en expliquant qu'il était de retour, « I am back ». Maintenant, non, il s'est pas exprimé, ni sur son été compliquées, des accusations de viol, de transfert raté. Donc tout ça, ça reste pour l'instant secret. Il va effectivement, même avant le match contre le Pérou, il ne participera pas aux conférences de presse. On voit néanmoins à travers les images de la CBF TV qu'il est à l'aise, qu'il plaisante évidemment comme souvent avec ses potes, avec Daniel Alves, Casemiro et consorts. Il s'est amusé avec des ballons de foot américains, avec des jeunes supporters aussi. Donc on le sent plutôt à l'aise et peut-être que ce petit stage avec la sélection va le rassénérer avant son retour au camp des loges qui risque d'être un peu plus tendu. Ouais.
Et en attendant son retour à Paris, Neymar va donc disputer un autre match amical mardi face au Pérou. Ce sera Los Angeles. Merci beaucoup Eric. Frozio en direct de Rio. À bientôt. Des frayeurs, mais la victoire aujourd'hui pour l'équipe de France de basket aux Mondiaux en Chine. Un succès ô combien précieux face à la Lituanie à Nankin, 78-75. Il lui permet d'assurer sa place en quart de finale. Ceci avant même son dernier match du deuxième tour lundi contre l'Australie. Les Bleus, dominateurs toute la rencontre, qui ont toutefois failli se faire coiffer sur le fil à l'issue d'un dernier carton chaud bouillant. Confirmation avec le capitaine tricolore Nicolas Batum que nous avons joint tout à l'heure en Chine.
C'était à la vie et à la mort quasiment pour les deux équipes, donc ça s'est vu sur tout le dernier quart-temps. C'était très chaud, ils ont mis des gros tirs, ils ont fait des gros stops, ils avaient une euphorie de leur côté, ils avaient public aussi avec eux, et nous on a su garder la tête froide, les coachs sont restés vraiment très très bien à nous des bonnes consignes, le banc était présent à nous encourager, les publics français qui étaient là aussi, il y a quelques personnes qui étaient dans les tribunes qui nous ont encouragés à fond, donc c'était une belle victoire de tout un groupe.
Vous menez de 17 points à un moment donné dans le troisième quart-temps, à l'arrivée vous gagnez de 3 unités seulement, la Lituanie vous passe en devant dans la dernière minute. Comment vous expliquez un petit peu que ça manque de vous échapper sur la fin ?
Il faut aussi pas oublier un truc, c'est que la Lituanie c'est une grande équipe avec des grands joueurs et qui aussi, des fois, nous on fait des grosses attaques et puis ils vont en faire aussi, c'est le basket. Il faut savoir après comment gérer ces moments de panique, si pas paniquer justement, ces moments d'euphorie de leur côté, ça va les gérer, on a su les gérer à la fin. C'est une satisfaction et de booker notre billet pour les quarts de finale déjà et nous classer dans le top 8 et continuer à rêver.
Les principales satisfactions que vous retirez de ce match ?
C'est encore une fois le début de match. C'est une chose qu'on fait très très bien et l'intensité défensive. Et il marque encore 76 points je crois, mais c'est l'intensité qu'on met en défense. On fait beaucoup de fautes, mais c'est vrai que la défense est encore très intéressante et la lucidité en fin de match. La lucidité en fin de match, ça a été une bonne chose pour nous.
Pour vous personnellement, satisfait de votre match après quelques jours difficiles en raison d'une blessure au dos ?
Oui, c'est douleur s'en va petit à petit. Bon, c'est vrai que j'ai un peu plus de rythme aujourd'hui, j'ai pu m'entraîner normalement pour la première fois depuis une semaine hier et ça me donnait un peu plus de jambes pour la suite.
4 matchs, 4 victoires pour l'équipe de France qui se retrouve en quart de finale. Comment vous trouvez le parcours des Bleus jusqu'à présent ?
Intéressant pour l'instant. Pour l'instant, on est dans les clous, on fait le boulot. Faut pas non plus tomber dans l'euphorie ou se projeter trop loin. Maintenant, faut penser d'abord à lundi. D'abord à lundi et l'Australie. Et après, à l'Australie, on verra ce qui se passe. Mais ça sert à rien de penser quart de finale ou quoi que ce soit. Faut d'abord finir ce deuxième tour correctement. Après, on verra.
Vous êtes donc qualifié pour les quarts de finale. Mais donc, il y a ce dernier match face à l'Australie qui est très, très important. Vous allez nous dire pourquoi.
C'est histoire de continuer sur notre bonne lancée, continuer à travailler, continuer à pourquoi pas battre une autre grosse équipe pour la confiance. Et avoir la première place du groupe et être en confiance pour la suite.
Avoir la première place du groupe qui vous permettrait a priori d'éviter les États-Unis en quart de finale, c'est important.
Ça, c'est quelque chose, on n'en parle pas, on n'y pense pas, ce qui se passe de l'autre côté. C'est quelque chose qu'on a fait auparavant en équipe de France, ça ne nous a jamais porté des bonnes choses, donc on parlera de ça lundi soir.
Merci beaucoup Nicolas, vous savez qu'on est à RFI, on est très écoutés au Cameroun, est-ce que vous voulez dire un petit mot à vos supporters camerounais ?
Bonjour à ma famille camerounaise et au tout peuple camerounais. J'espère qu'ils nous suivent beaucoup, que c'est quand même assez un côté de ma famille et de mon histoire. Donc je pense à eux très très fort et j'espère qu'ils nous supportent quand même.
Nicolas Batum, dont le père Richard était camerounais, lui-même joueur de basket professionnel. France-Australie, avec pour enjeu la première place du groupe, ce sera donc lundi à 12h, temps universel. On passe à la Formule 1, le mythique Grand Prix de Monza se déroule demain en Italie, à la grande joie des tifosi supporters de la Scuderia. Charles Leclerc s'élancera en pole position au volant de sa Ferrari. Le Monégasque a signé aujourd'hui le meilleur temps des essais, surfant ainsi sur sa bonne passe actuelle. Ce pilote de 21 ans, en effet, a confirmé tous les espoirs placés en lui dimanche dernier, remportant à Spa le premier Grand Prix de sa carrière. Une nouvelle star de la Formule 1 est née et Cédric de Oliveira nous la présente.
Il n'est pas le plus expansif ni le plus charismatique, mais Charles Leclerc est sans doute l'un des pilotes les plus prometteurs de sa génération, de ceux qui depuis tout petit rêvent d'asphalte et de pneus qui crissent. Né à Monaco il y a 21 ans, il semblait prédestiné au faste de la Formule 1.
Le premier Grand Prix, j'ai regardé, je devais avoir 4-5 ans, je jouais avec mes petites voitures. Et voilà, je regardais surtout la voiture rouge, j'étais très passionné par Ferrari déjà.
Ferrari, que Leclerc a rejoint après une ascension fulgurante, plusieurs années de karting, puis un titre en GP3 série, un autre en Formule 2, avant d'atterrir en F1 chez Alfa Romeo. Une saison de rodage, puis le Graal, avec une signature chez Ferrari l'été dernier. Les succès s'enchaînent, première pole position au Grand Prix de Bahreïn en mars, et première victoire de sa carrière le week-end dernier en Belgique, sur la piste de Spa-Francorchamps. Ce qui l'a fait entrer à 21 ans au Panthéon des pilotes Ferrari. Il est le plus jeune à s'imposer pour la Scuderia, une performance de taille qui n'a laissé personne indifférent, pas même son coéquipier Sébastien Vettel, avec qui la cohabitation n'est pourtant pas simple depuis le début de la saison.
Il est évident qu'il a beaucoup de potentiel. Je pense qu'il a fait une première saison très réussie avec Alpha. C'est bien de voir qu'il est tout de suite performant, c'est bien pour nous, pour l'équipe. Le plus important, c'est d'arriver à travailler ensemble et non l'un contre l'autre. Le week-end dernier était important pour lui, même s'il a visiblement été assombri par les circonstances du décès d'Antoine Hubert. C'était sa première victoire, mais je suis sûr qu'il y en aura beaucoup plus.
Malgré la rivalité naissante entre les deux pilotes de la Scuderia, il y a déjà du respect chez le quadruple champion du monde allemand. Il faut dire que la première victoire en Grand Prix de Leclerc a été obtenue au lendemain de la mort de son ami, le pilote français de GP2 Antoine Hubert, victime d'un grave carambolage en qualification. Le signe que le Monégasque a su maîtriser ses émotions pour atteindre une nouvelle étape de sa carrière.
C'est difficile de profiter de la première victoire surtout. Après voilà, c'est sûr que quand je réaliserai que j'ai enfin gagné mon premier Grand Prix en F1, peut-être d'ici quelques temps je pourrai profiter un peu plus. Voilà, ça fait du bien, on pense à d'où on vient et que c'était surtout un rêve de gosse de gagner ce premier Grand Prix.
Un succès à Spa qui a fait changer de statut à Leclerc et qui a renforcé sa cote chez les amoureux de Ferrari. Toujours considéré comme numéro 2 derrière Sébastien Vettel, un triomphe à Monza viendrait peut-être bousculer la hiérarchie et le ferait entrer définitivement dans le cœur des tifosi.
Cédric de Oliveira et Charles Leclerc est pour l'instant 5e au classement du championnat du monde des pilotes, bien loin du leader, le Britannique Lewis Hamilton. Grand Prix de Monza, départ demain à 13h10, temps universel, avec donc le Monégasque en pole position. On retourne en Afrique avec vous Thomas de Saint-Léger pour parler cyclisme, le départ demain du 26e tour de Côte d'Ivoire.
Grand départ donné précisément de Korogo au nord du pays, en tout 6 étapes pour un peloton réduit cette année avec uniquement des équipes d'Afrique de l'Ouest. Présentation signée Emmanuel Kofi.
6 pays, 7 équipes dont 2 de Côte d'Ivoire, un peloton de 42 coureurs, un circuit long de 650 km. Ce 26e tour de Côte d'Ivoire se veut festif. Laurent Bezot, directeur de course.
Une édition qui est un peu à l'image des précédentes. Parcours qui reste équilibré. On va partir du nord, de Korogo, on va aller à Ferke. Ensuite, on revient vers le centre. Thiébissou, Didiévi, Yamoussoukro avec un contre-la-montre individuel. Également, on ira à Daoukro. Il y a Kasséfé-Yassé où nous sommes allés pour la première fois, je crois, l'année dernière, à Bengourou, à Dzopé, et puis une dernière étape à Agboville. Et enfin, le dernier jour, le dimanche 15 septembre, le Grand Prix d'Abidjan à Abobo. Les trois équipes phares vont être évidemment la Côte d'Ivoire avec Issiaka Cissé, le Burkina Faso avec Paul Daumont qui a obtenu de bons résultats aux derniers Jeux africains, et puis le Cameroun avec Kamzong Abosolo, sans oublier le coureur malien Yaya Diallo qui sera dans l'équipe nationale du Mali.
Faire bonne figure autour de Côte d'Ivoire, c'est le leitmotiv de l'équipe béninoise. Papouin Ocho, entraîneur national.
On est parti pour les Jeux africains au Maroc. Tant qu'on vient du Maroc, je crois qu'on est très bien prêt pour démarrer la fête de saint du Côte d'Ivoire. Je crois que c'est la première fois qu'on a un très bon résultat du tout de la Côte d'Ivoire, parce qu'il n'y a pas longtemps, on a quitté le Maroc, donc les enfants sont en jambes, et je crois que ça va être mieux, plus que les années antérieures.
Comme l'année dernière déjà, de gros soucis financiers minent l'organisation de ce 26e tour de Côte d'Ivoire. Alaa Kwame, président de la fédération.
Ce qui nous manque réellement, c'est les finances. C'est vrai que les sponsors privés qui se sont engagés à nos côtés ont pour la plupart dégagé les moyens. Pour l'instant, là où nous sommes, l'État de Côte d'Ivoire ne nous a pas encore dit à quelle hauteur il intervient. Et c'est ça qui nous met un peu dans une situation, je dirais, un peu délicate. Et cela nous pèse dessus. Peut-être qu'on n'a pas encore trouvé la bonne formule pour accrocher les pouvoirs publics. Moi, pour moi, c'est la seule explication. Autrement, le cyclisme de par le monde, on sait que c'est un sport qui mobilise, c'est un sport qui permet de passer des messages, c'est un sport qui va partout. Et c'est vrai que comparaison n'est pas raison, mais dans des pays pas très loin de chez nous, le cyclisme est un sport qui est choyé par les autorités et les moyens sont mis à disposition. Et comme je dis, peut-être qu'on n'a pas encore pu trouver la bonne façon de communiquer avec les gouvernants et que ça, on réussira un jour à faire en sorte que les gouvernants accrochent, se rendent compte que le cyclisme est un sport qui mobilise. Là, nous passons le message de la réconciliation, par exemple. Nous allons traverser la Côte d'Ivoire du nord au sud, d'est en ouest. Vous voyez, c'est important. Mais on ne va pas s'arrêter. Chaque fois, on le fera et on espère que nous serons un jour compris, entendus par qui il faut pour qu'on nous aide comme il faut.
Annoncé à ce tour de Côte d'Ivoire, le Ghana, la Sierra Leone et le Sénégal ne viennent plus pour des raisons diverses. Emmanuel Kofi, Abidjan, RFI.
Allez, on va passer au tennis. C'est le suspense à New York. La finale dames de l'US Open est en cours. Une grosse bataille entre l'ancienne américaine Serena Williams et la nouvelle Bianca Andreescu, la canadienne d'origine roumaine qui a mené 6-3-5-1, qui a servi pour le match. Mais là, on en est à 6-5 pour Andreescu, service Serena Williams. Le tout sous les yeux de Nathalie Tauziat, l'ancienne championne française qui a entraîné Bianca Andreescu entre 2014 et 2017. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir.
Où en sont les pulsations cardiaques? Parce que je suppose qu'au niveau émotion, là, ça doit être très très fort pour vous.
Bah, je suis en train de regarder. Oui, je m'attends que ça soit fini là. J'espère qu'elle va gagner ce jeu.
6-3-5-1, elle semblait vraiment inarrêtable. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là?
Bah, sûrement qu'elle s'est un peu posé des questions. Voilà, c'est sa première finale, donc c'est un peu normal. Et puis Serena a réagi tout de suite, elle a continué à s'accrocher, elle a lâché quelques coups. On joue toujours bien quand on est au mur. Et puis Bianca a un peu, à un moment donné, joué un peu moins agressive. Et voilà, quand Serena, ça pardonne pas, quoi. Il faut pas lâcher un point, il faut pas lâcher une balle, il faut jouer à fond toutes les balles, il faut être agressif tout le temps pour lui montrer qu'on est là. Et c'est ce qu'aime pas du tout Serena. Et Bianca l'a un peu moins bien fait au moment de conclure, c'est tout.
Bianca Andreescu, en tout cas, impressionne lors de cette US Open et cette année. Elle a gagné Indian Wells et Toronto alors qu'elle était bien loin au classement l'an dernier seulement. Vous l'aviez entraînée donc il y a quelques années. Vous avez déjà senti ce potentiel chez elle?
Oui, bien sûr. Oui, d'entrée, j'ai vu le potentiel qu'elle avait. Enfin, pas comme moi, hein, Tennis Canada aussi. Et voilà, on a beaucoup travaillé ce jeu de variation. Avec de l'agressivité, varier le jeu à la demande de match. Excusez-moi, mais comme je suis de match en direct,
oui, balle de match,
pour
deux
moi.
Balles de match pour mais elle, pour voilà. Remporter son grand chelem. Et on a vu sa grande force mentale, quand même, si elle a un petit peu tremblé. À 19 ans, première finale de grand chelem face à Serena Williams, une légende. D'où elle tient ça, cette force incroyable?
Elle a cette force naturelle, elle a toujours eu. Et puis elle écoute beaucoup les gens autour d'elle et voilà, et on lui a surtout dit de pas regarder la championne qui est Serena Williams et de la regarder comme une joueuse, et c'est ce qu'elle est en train de faire.
Serena Williams qui a sauvé la première balle de match sur un ace. Il nous reste une petite trentaine de secondes. Serena Williams, si elle perd, ça serait sa quatrième finale de Grand Chelem de suite perdue. Ça paraît fou pour une joueuse de cette expérience.
Oui, mais elle a des joueuses qui sont bien présentes, qui jouent leur coup à fond et c'est important, je crois que voilà. Et puis Bianca joue son match à fond, hein, c'est jamais facile.
Merci beaucoup Nathalie Tauziat d'avoir été avec nous. Et voilà, elle a gagné, Bianca Andreescu, lauréate de l'US Open. C'est extraordinaire. À 19 ans, elle a battu Serena Williams 6-3, 7-5. On se quitte là-dessus. Bonne soirée.